Bible de l'humanité, deuxième partie, chapitre 3, Bacchus Sabas, son incarnation, le tyran. L'effroi d'Athènes, au jour où la mer disparut sous la flotte du Perse que conduisaient les Phéniciens, l'effroi de Syracuse, lorsque les vaisseaux de Carthage lui apportaient son noir Moloch, je l'éprouve en voyant la Grèce envahi, pénétré par les sombres dieux d'Orient. Qu'adviendra-t-il du genre humain si le pays de la lumière est enténébré de leur culte? Tous sont de la Syrie. Par la Syrie, tout passe, ce qui est même d'Égypte ou de Chaldée. Les baroques dieux de la Phrygie, un Attis, un Sabas, sont les contrefaçons des Syriens Adonis, Sabaoth. Les comptoirs phéniciens sont le grand véhicule de ce torrent bourbeux. Rien de plus singulier que les métamorphoses par où ces dieux sauvages s'insinuent, s'infiltrent en Grèce. L'Adonaï farouche du désert, pleureur à Byblos, devient le charmant Adonis. Sabaoth, seigneur des sept cieux, de l'armée des étoiles, vieux père des mages et dieu du sabéisme, devient Sabas Attis, jeune martyr dont le deuil sabbatique et les nocturnes fêtes vont durer pendant 2000 ans. Tout à côté, non moins vivace, plus sournois, durera, et dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, l'autre démon, le rusé Belphégor de Syrie, aux longues oreilles, l'âne du vin, de la lascivité, indomptablement priapique. Mais ces figures bizarres auraient effarouché la Grèce si la plupart n'avaient passé par une grande transformation, n'eussent plongé, bouilli, écumé, fermenté, non pas au chaudron de Médée, mais dans la fumante cuve d'un dieu rural qui semblait innocent, dieu qu'on trouve partout, celui de la vendange, celui de la joyeuse ronde et des farces grossières qu'on fait à ce moment. Et c'est de là que sort Dionysos, le grand Capharnaüm des dieux, le faux médiateur, le faux libérateur, dieu des tyrans, dieu de la mort. Nous avons, dans l'Inde védique, noté la liqueur fermentée, le somma, hostie de l'Asie. Il fut destitué par le vin. Avançant vers l'ouest, il rencontra la vigne qui lui fut préférée et parut plus divine. Chaque année, ce dieu en tonneau partait de l'Arménie, chargé sur des barques de cuir cerclées de planches où l'on mettait un âne. Il descendait l'Euphrate. La Chaldée, qui n'avait que son mauvais vin de palmier, buvait dévotement ce nectar d'Arménie. Les planches étaient vendues. L'âne prenait le cuir, le remontait au haut pays. Cet aimable animal, l'orgueil de l'Orient, qui chaque année, sans fatigue, en triomphe, comme un roi mage, entrait à Babylone avec la joyeuse vendange, était fêté et honoré. On lui donnait le titre de seigneur. On l'appelait avec respect Belphéor, seigneur âne. Respect bien plus grand en Syrie, où sa gaieté lascive et ses dons amoureux, sa supériorité sur l'homme, émerveillait la Syrienne, dit le prophète. Prophète il fut lui-même, parla sous Balaam. On appelle encore l'âne la montagne où il a parlé. Au fond, il est démon, le Belphégor, démon impur et doux, qui sert tous et à tout, se fait monter, brider. C'est sur la montagne de l'âne que les anges eux-mêmes, atteints de Belphégor, eurent désir des filles des hommes. Au désert même, on fit déjà la fête de l'âne. Il évita l'Égypte où, sans pitié, on lui rompait le cou. Il marcha vers le nord, vers l'ouest, magistralement, prêchant la culture de la vigne, le vin, ce petit frère d'amour. L'âne eut tout envahi, eût été Priape et Bacchus. Sa forte personnalité, toute comique, ne le permit pas. Il n'eût pas été le Protée voluptueux des pleurs et de la joie. Il n'eût pas fait l'enfant pour attendrir les femmes. Il ne se fût pas fait un beau garçon martyrisé. Il n'aurait pas créé le spectacle des pathémata, la passion. Ce spectacle semble né en Crète par la tradition de l'enfant livré au Minotaure. L'enfant joua Bacchus. La victime remplaça le dieu. Ce petit Bacchus ou Zagreus, déchiré, immolé sur le tombereau des vendanges par ses cris et ses pleurs, le faux sang qui coulait faisait rire d'abord, puis pleurer. Les pathémata de Zagreus, cette passion tragicomique, jouée à Athènes et partout, commence le théâtre grec, comme celui du Moyen-Âge s'ouvre par les mystères, les confrères de la passion. Les femmes, dans leurs petits mystères de printemps et d'automne, fêtes où la mère Cérès, deux fois par an, disait le droit d'amour, les femmes, dis-je, trouvaient très doux d'en avoir dans leurs bras le fruit, d'apporter un petit enfant comme on met Iacus. Bacchus, sous cette forme enfantine, entra à Eleusis, avec ses tragicomédies, sa passion d'un dieu démembré, ses équivoques incestueuses de symbolisme obscur, surcharge déplorable. Le grain mourait, ressuscitait, et Proserpine aussi. Bacchus mourait, ressuscitait, c'était un drame dans un drame qui compliquait, sans le fortifier, ce beau et grand thème moral. On l'a dit, non sans fondement, c'était la messe païenne. Les initiés participaient à la scène de Cérès, au pain, au breuvage mêlé qu'elle but dans ses courses lugubres, dans sa passion maternelle. Communion sous les deux espèces, à laquelle Bacchus toutefois ne mêlait pas celle du vin. Mais dans ses fêtes propres, il prenait un nom inférieur, en pélos, vigne, et s'y offrait en sacrifice funèbre. Bacchus, vigne, se dévouait, s'immolait à Bacchus Pluton et prétendait mourir pour nous. Il est ici médiateur, visiblement, adoucit le passage, mène doucement les âmes d'un monde à l'autre, se charge de plaider et de payer pour l'homme. Il peut agir pour l'homme, ayant été d'abord non Dieu, mais simplement héros, homme héroïque. À cette époque singulière, l'humanité semble se croire indigne de parler à Dieu. Il lui faut des intermédiaires, des guides, des interprètes. Mitra là-bas, ici Bacchus, désormais parleront pour nous. Dieu et l'homme ont deux langages, les voilà séparés. Le glorieux privilège de communication directe, l'homme en est destitué. Chute immense. Le ciel est plus haut? Je ne sais, mais je suis plus bas. Les sages avaient d'abord violemment lutté contre Bacchus. Nous avons vu la guerre d'Apollon contre lui, la lutte mémorable de la flûte et de la lyre. La lyre tue Marsyas, la flûte Orphée. Les pythagoriciens, d'abord antibachiques et visant à la pureté, se soumettent pourtant aux vainqueurs. Ils l'adoptent dans leurs hymnes orphiques, où ils veulent concilier tout, accouplant pêle-mêle avec Bacchus l'amour ou désir phénicien, le Zeus grec, les nouveaux mystères. Ainsi, les sages et les non-sages, les purs et les impurs, tout se déclare pour lui. Platon, contre Socrate et l'esprit socratique, veut un médiateur d'amour. grand rôle qu'Héros, l'enfant ailé, ne prendra pas en Grèce, mais qui revient tout entier à Bacchus, dès lors irrésistible, tout puissant, qui emporte tout. L'art n'y aida pas peu, suivit la pente et la fit plus rapide. D'abord, dans les statues, Bacchus est assez mal. Gendre, fils, époux de Cérès, selon ses noms divers, au dernier acte des mystères, quand il était auprès de la vénérable déesse, sur un lit triomphal, il était noble encore, égal au Jupiter du ciel dans les statues de Polyclète, ayant l'aigle et la foudre, et Jupiter d'en bas avec la sainte coupe des morts, sauveur au ciel, sur la terre, aux enfers, ouvrant partout l'espoir, il apparaissait Dieu des dieux. Mais au fond, il est femme, et elle paraît de plus en plus. Il se fait Adonis, Attis, Attis Sabas, l'efféminé jeune homme que nature, par méprise, a décoré du sexe mâle. Somnolent, et l'œil demi-clos, il semble une belle paresseuse. Tout le contraire des roses, l'enfant vif et sauvage, qui n'était qu'étincelle, s'est endormi à le charme malsain d'un marais sous les fleurs. L'art va l'efféminant, n'osant lui donner la mamelle, mais le faisant rival indécent de la calipige. Tout cela par degrés, jusqu'au jeune Bacchus, gras, quelque peu bouffi, sombrement impudique, de la colonne des jardins de Néron, il fixe un regard triste, altier, sur le soleil qui rougit de le voir. Des fables vaines ornèrent ce favori, sans respect pour Homère, qui note la lâcheté de Bacchus. On en fit un Hercule combattant les titans. On le fit conquérant de l'Inde. On lui donna des tigres pour le tirer au lieu de l'âne, sa monture. On le chantait courant toute la terre, l'amphore en main, renversant les plus forts par la force invincible ou du vin ou de la beauté. Je ne sais comment Aristophane, le comique intrépide, osa dans les grenouilles montrer le vrai Bacchus, la femme grasse, immonde et poltronne, qui pour un rien se meurt de peur. S'il voulait la vilir, il réussit bien mal. C'était la maîtresse adorée, le mignon populaire. Ce peuple, où déjà dominait l'affranchie et l'esclave, la fausse Athènes qui remplaçait la vraie, se reconnut en lui et le trouva charmant, l'honora justement comme esclave gourmand et poltron, ennemi surtout du travail, ivresse et paresse incarnée. C'était bien là le roi, le tyran qu'il rêvait. C'est la force terrible de Bacchus. Il est le dieu des tyrans, des esclaves. Il est le bon tyran d'ivresse et de hasard, de bonheur et de bonne aventure, bonus et ventus. C'est le libérateur, celui qui dénoue et délie. Il délie l'homme des soucis de l'année, des travaux de l'été, pour entrer en vendange. À l'automne, au printemps, il fait la fête de l'esclave. Il le nourrit d'espoir, de la chimère du règne de Bacchus, et de la vie sans loi, où la seule loi sera de boire et de dormir. Un dieu qui délie tout est naturellement délié, sans ceinture. Ses bacchantes aussi en signe d'abandon. Plus de tien ni de mien, plus de limite. Surtout, plus de travail. Bacchus l'abolit. À la place, il institue un éternel banquet où il fera les parts. Son diadème semble porter son nom, le partageur. S'il délie tout le monde, ne déliera-t-il pas la femme? Il lui donne d'abord la liberté des larmes sensuelles, la douceur de pleurer. Avec son cortège de satyres, de silènes, Il est pleureur par excellence. La femme grecque, tristement sédentaire, s'épanche avec Bacchus, verse en pleurs ses amours. Elle a toujours à elle, qui ne la quitte pas, l'indispensable et confidente nourrice, tendre et folle, orageuse, de Thrace ou de Phrygie, ou la rusée milésienne, la suave amie d'Ionie. La douceur est, le soir, d'aller pleurer ensemble chez Bacchus Adonis, aux vêpres de Syrie, où, trois nuits tout entières, soupire et gémit la colombe. On en riait, on ne rit point du tout, quand, certains soirs, au moment solennel où la fatale expédition de Sicile fut décidée, un chant de deuil remplit la ville. C'étaient les dames qui pleuraient. La patrie, non, mais la mort d'Adonis. Au vin d'œil se mêle la peur. Les démons, les esprits mauvais vont et viennent, s'agitent. C'est une épidémie. La Vierge en est malade. On lui conseille au plus tôt de se marier. Mais la femme n'est plus tranquille. Plusieurs sont tellement poursuivis des démons qu'elle désespère et s'étrangle. Les frayeurs, les saisissements répandent la maladie sacrée, le fléau de l'épilepsie. Le remède à la peur, certainement, c'est le mouvement, c'est la danse, le tirse, l'orgie bruyante. La femme qui, le soir à peine, gardée de sa nourrice, allait à ses petits mystères, se trouve maintenant si hardie qu'elle s'en va en bande à Éleusis, bien plus au promontoire désert, et que dis-je, à Delphes, au Parnasse. Thyade, elle pleura et délira Ménade. Mais tremblez, elle est Mimalone, la guerrière de Bacchus. Elle a le tirse et le poignard. Ce doux Bacchus est un dieu de la mort. Les Bacchantes en prennent le nom. Ce doux Bacchus aime le sang et se souvient d'avoir été Moloch. S'il n'exige plus de victimes humaines, sa soif n'a pas changé, si bien que ses amantes, dans la rue d'Arcadie, se fouettent et se déchirent pour lui offrir du sang de femme. Ces impures et cruelles religions s'étendaient dans les fausses Grèces, cyniques en Sicile, en Italie, on le voit par les vases, en Phrygie, troubles et folles, en Thessalie, épire, en Thrace et Macédoine, compliquées de magie barbare. On avait le pressentiment que de grands maux allaient venir, un terrible bouleversement. Les femmes avaient le cœur serré. D'avance, le deuil de Chéronée pesait sur elles. D'avance, l'épouvantable fin de Thèbes, où Alexandre vendit 30 000 Grecs en un jour. Elles sentaient, craignaient le danger et cependant le préparaient. De la lugubre orgie allaient venir ces mots que l'on pleurait sans les connaître. Dissolution, ruine, esclavage et la victoire barbare. La vivante orgie, le tyran.